Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers élus, bienvenue à l'Office du tourisme de Lens-Liévin et Nain-Carvin. Je suis ravie, et je dois le dire très fière, de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de l'Académie de l'Hospitalité. Je terminerai avec une seule chose, un petit plaisir personnel. Je peux encore, nous sommes encore dans la semaine où je peux le faire. J'encourage les Lillois à sortir. Je suis désolée. On va faire et un, et deux, et trois.
Vous êtes dans la première partie de ce qu'on a mis en place en 2019, qui est l'Office du tourisme de Lens-Liévin et Nain-Carvin. On est dans un lieu qui était un ancien magasin de vaisselle, et c'est vrai que déjà on a créé quelque chose d'atypique avec la ressourcerie, qu'on travaille avec Récup'Tree, avec la vente de créateurs du territoire, la location de vélos, la bagagerie. En fait, on a créé tout un tas de services pour améliorer l'accueil du visiteur sur le territoire. Mais dès le départ, on avait cette intention de développer cette Académie de l'Hospitalité pour aller chercher les gens les plus à l'écart de l'emploi, ceux qui ont des qualités humaines très fortes, et les emmener vers les métiers d'hôtellerie et de la restauration. Et donc la deuxième phase de travaux qui vient de se terminer, elle nous a permis d'avoir des espaces, vous allez voir, qui sont applicatifs. Et comme pour tous nos espaces, y compris celui dans lequel vous étiez, on est dans une hybridation des usages. C'est-à-dire que la salle de réunion qui est là, c'est notre salle de réunion, mais elle est aussi louée en coworking. L'atelier de cuisine, il va donc servir aux formations, mais il sera également un atelier de cuisine pour le grand public sur le week-end en dehors des informations, et idem pour le meublé. On est vraiment toujours dans cette hybridation des usages. Voilà. Sophie Willem, je suis directrice de Lens Tourisme.
Voilà, donc on va découvrir un projet sans doute novateur, du moins pour la région.
Alors effectivement, à ce jour, je n'ai pas identifié d'autres projets similaires, en tout cas d'autres offices tourisme qui se sont engagés sur le sujet de l'emploi et de la formation. Donc on est en train effectivement de pousser un peu les cadres de notre intervention.
C'est vrai que la région de France est riche en propositions de tourisme. Il y a des lieux d'accueil pour se restaurer, pour demeurer quelque part un moment, les hôtels, etc. Donc il y a une vraie offre par rapport à ce public de passage. Est-ce qu'il y a, au point de vue de l'emploi, des personnes qui peuvent répondre à ces besoins, et est-ce qu'il est nécessaire de les former, de les accompagner et de leur donner aussi l'envie ?
Alors effectivement, vous avez raison, ce projet, il a deux vocations. Restaurer l'attractivité des métiers de la filière hôtellerie, restaurant et tourisme. Ce sont de très beaux métiers, sont souvent malmenés. On les réduit souvent à leurs contraintes, alors que c'est des métiers très épanouissants dans lesquels il y a des évolutions professionnelles possibles. Et l'avantage qu'on a sur notre territoire, c'est qu'on a des gens qui ont des qualités humaines qui les prédisposent à ces métiers d'hôtellerie et de la restauration. Le goût des autres, le fait de prendre soin des autres, la petite attention, une générosité dans l'accueil. Notre projet, c'était vraiment de se dire comment, à un moment donné, on fait en sorte de faire se rencontrer les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration qui manquent de talent, et ces talents qui s'ignorent, ces gens qui ont en eux finalement cette vocation. Et comment on monte en compétences ces gens qui ont ces qualités humaines pour leur permettre d'occuper les postes de l'hôtellerie, de la restauration.
Voilà, donc l'Académie de l'Hospitalité, c'est un lieu qui existait déjà, qui a été transformé pour être adapté à ses besoins spécifiques.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance et ça participe du projet. On a pris place dans un ancien magasin de vaisselle. Alors la belle vaisselle, c'est le début de l'art de recevoir. Et finalement, on poursuit un peu la vocation de ce bâtiment en lui redonnant ses lettres de noblesse. Donc on est là au cœur de Lens, en plein centre-ville. On a créé un atelier de cuisine et un meublé de tourisme dans les anciens appartements de ce magasin, qui nous permettent aujourd'hui de développer de manière applicative un parcours de 12 semaines de formation au métier d'hôtellerie et de la restauration. On va essentiellement travailler sur la question des compétences transversales, donc plutôt la question de la confiance en soi, de la gestion des émotions, de la relation à l'autre, de la gestion des conflits parfois, pour aider à maximum minimiser les freins de retour à l'emploi. Et puis on va, avec l'aide d'expertise externe, et notamment nos hôteliers, nos restaurateurs, mais aussi les lycées hôteliers ou les CFA du territoire, former sur les expertises métiers que sont commis de cuisine, serveurs en salle, agents d'étage, agents d'accueil.
Donc c'est 4 ans de maturation d'un projet qui aujourd'hui se concrétise avec une première promotion, on va appeler ça comme ça, et quelqu'un qui va être un peu le parrain.
Alors c'est vrai que sur un projet comme celui-ci, où finalement en fait on a beaucoup travaillé en co-construction, on voulait symboliser la question de l'équipe et la question de la fierté. Et du coup, avoir comme parrain de la première promotion Benjamin Parot, qui est le directeur général du Racing Club de Lens, ça faisait tout son sens. C'est-à-dire que ce territoire, il est aussi connu pour le Racing Club de Lens, qui est porteur des valeurs du territoire, la solidarité, l'effort, l'équipe, le collectif. Et le fait qu'il ait accepté de parrainer cette promotion, pour nous, c'est vraiment une joie, un honneur. Et ça représente parfaitement les valeurs que l'on veut incarner avec cette Académie de l'Hospitalité.
Et comment on peut rejoindre les prochaines, justement, sessions ?
Alors, pour pouvoir rejoindre les prochaines sessions en tant que stagiaire, il faut en parler à son conseiller France Travail, conseiller qui vous suit dans le cadre du RSA, ou nous contacter directement à l'Office du Tourisme. On cible essentiellement des gens qui sont bénéficiaires du RSA, décrocheurs scolaires, moins de 26 ans, qui sont chômeurs de longue durée. Donc, il suffit juste de prendre contact avec l'Office du Tourisme ou avec son conseiller pour être ensuite recontacté. On a un dispositif de sourcing qui nous permet d'identifier ces qualités humaines et de voir si vous avez cette vocation, cette motivation, cette envie qui va vous permettre ensuite d'évoluer dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Si vous êtes restaurateur, hébergeur et que vous avez une problématique d'emploi, il faut venir nous la confier et nous, en fait, on vient faire ici des rencontres, des matchs entre un stagiaire et un hôtelier ou un restaurateur. On a la chance d'avoir une connaissance fine de ces métiers et de ces établissements. On sait que dans certains, il va falloir quelqu'un de sportif, dans d'autres, quelqu'un de plus méticuleux. Et donc, on arrive à faire se rencontrer des talents et des entreprises.
Je suis Coralie Poli, référente pédagogique et formatrice pour l'Académie de l'Hospitalité.
Voilà, donc on peut peut-être présenter votre projet donc d'enseignement hein, et d'encadrement aussi.
Tout à fait, parce que c'est vraiment particulier, c'est une nouveauté sur les territoires. On est sur un parcours de formation de 3 mois, essentiellement tourné sur les compétences de vie psychosociale. Donc à 60% sur ces compétences-là, la communication, la gestion des émotions, et 40% sur les savoir-faire techniques, où on va s'entourer des organismes de formation déjà existants, avec les CFA en fait, du territoire, mais aussi les employeurs, puisque cette transmission, ce partage de connaissances va vraiment se faire à leur côté en entreprise.
Est-ce qu'il y a une philosophie ? On parle d'accueil, bien sûr, de savoir-faire. Et comment, justement, ces jeunes vont être accueillis aussi par des professionnels qui vont les guider ? Est-ce que ces professionnels vont se mettre en phase avec leurs attentes ? Parce que le marché du travail est un peu compliqué pour ces professionnels. Justement, est-ce qu'il va y avoir des améliorations dans le traitement des jeunes, des apprentis et des professionnels par la suite quand ils seront sur le terrain ?
Tout à fait, je préciserai que ce n'est pas que des jeunes, alors même si notre promo, tous diraient qu'ils sont très très jeunes, mais on accueille des publics de 18 à là 50 ans pour la doyenne de la promo. Et pour répondre à la question sur l'accueil, il y a une vraie réflexion qui s'est faite et un travail de construction avec les professionnels qui effectivement subissent une image qui est parfois effectivement difficile sur l'accueil, sur le traitement de leurs collaborateurs. Mais là, on a vraiment des professionnels qui ont envie de partager autour de leur expérience. Et tous les tuteurs qui accueilleront nos stagiaires de formation ont pu aussi bénéficier d'une demi-journée de sensibilisation. On a travaillé autour de plutôt ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Donc, on ne l'a pas inventé, mais en fait, c'est le fait de bien accueillir ses collaborateurs pour que derrière, on accueille bien ses clients, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a bien sensibilisé pour travailler sur un processus d'intégration qui convienne à la fois, effectivement, côté salarié, mais aussi employeur.
Il y a certaines entreprises assez grandes, on va dire, qui ont des problèmes de recrutement. Est-ce que pour chacune de ces entreprises, il y a une approche individualisée d'une certaine manière ? Les besoins ne sont pas les mêmes d'une entreprise à l'autre.
tout à fait. C'est pour ça qu'on est aussi sur une formation qui est sur 4 métiers. Donc une formation pour 4 métiers. Donc rien que le programme de formation est personnalisé en fonction du besoin et qu'il y a vraiment une rencontre en amont. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, là, tous les apprenants qui démarrent ce lundi matin ont tous rencontré déjà leur tuteur. D'accord, donc déjà l'accueil va être personnalisé en fait, quand ils vont arriver leur premier jour en immersion. La semaine prochaine, on va déjà faire des immersions collectives, on va se déplacer ensemble, rencontrer justement l'ensemble des employeurs qui vont nous accueillir. On va aller manger à l'atelier du cerisier aussi ensemble pour leur permettre d'avoir une expérience client. Aujourd'hui dans le groupe, peu sont ceux qui ont déjà été au restaurant. Finalement, comment on peut se projeter dans un métier sans l'avoir expérimenté en tant que client? Comment comprendre les codes? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va leur permettre de vivre. Je pense que c'est une leçon, un enseignement qui sera beaucoup plus fort que si on fait un enseignement classique avec un PowerPoint dans une salle de cours. Mais de le vivre en se disant, bah, effectivement, je suis allée au restaurant, j'ai passé un super moment en tant que client. Mais qu'est-ce qui m'a fait plaisir, en fait? En quoi le serveur a fait quelque chose qui a senti que je me suis sentie bien dans l'assiette? Quel travail il y avait? Pourquoi cette assiette-là était différente de celle que je fais chez moi? Et de se dire, ah, bah, moi, en tant que client, j'ai aimé ça. Bah demain, en tant que professionnel, va falloir que je fasse attention à ça. Et ça, dès la première semaine, on rentre dans cette thématique.
Et donc, ces personnes qui intègrent la formation, elles ont été recrutées sur quelle base, quel profil? Comment vous avez fait pour les sélectionner?
Alors, elles ont été déjà sélectionnées en lien avec les acteurs de l'emploi qui ont été cités, alors les missions locales, France Travail, le département, qui nous ont orienté des publics. Et nous, donc, il y a eu toute une recherche autour de leur personnalité, de leur loisir, parce qu'on a des personnes qui sont en décrochage scolaire, qui n'ont encore jamais travaillé. On a des personnes qui ont élevé leurs enfants et qui se retrouvent sur un marché de l'emploi, effectivement, à un certain âge, avec un CV et un trou dans le CV et qui ne convainc pas, du coup, en entretien. Donc là, ce qu'on a apporté, c'est vraiment une réflexion autour de leur relation à l'autre. On a des personnes aujourd'hui qui sont investies dans des associations bénévoles, donc qui ont en fait cette envie, ce soin à l'autre, cette réflexion, ce projet. Et ça, c'est des vraies valeurs qu'on recherche aujourd'hui à repérer pour derrière les transformer en compétences professionnelles.
Il y a dans la région plusieurs écoles hôtelières. Est-ce que vous êtes inspiré de leur mode de fonctionnement, de leurs problématiques?
On s'est inspiré de leurs problématiques et c'est pour ça que je pense qu'on va pouvoir agir en complémentarité. On les a rencontrés à aujourd'hui. Nous, on va travailler sur la notion du sens et des valeurs du métier plus que par le geste métier. Finalement, c'est des personnes qui, sur un diplôme, un parcours de formation plus long, sur un an, deux ans, auraient très vite décroché certainement. Parce que sans derrière réfléchir si c'est vraiment un métier qui leur convienne, c'est difficile de se projeter et de passer toutes les étapes qu'une formation impose. Donc finalement, on va vraiment travailler, je pense, main dans la main ensemble. On les a sollicités, on a un CFA de Lens qui va venir, lui, se déplacer pour faire de la formation technique. Donc on s'est vraiment entouré et pour travailler effectivement ensemble avec ce même objectif. On a aussi effectivement des jeunes derrière. La suite, ils le savent aujourd'hui, c'est une formation, une première marche pour derrière, pourquoi pas, décrocher un contrat d'apprentissage.
Donc 8 personnes, 12 semaines et ensuite un parcours de vie professionnel.
C'est tout ce qu'on leur souhaite effectivement, c'est de faire une belle carrière et de prendre du plaisir dans leur métier.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc heureux de vous rencontrer. Donc vous êtes la première promo de cette école qui va vous amener en compétences pour travailler, aborder le monde notamment de l'accueil dans l'hôtellerie, la restauration et d'autres choses.
Oui.
Donc comment ça s'est passé cette première rencontre avec le lieu que vous venez de faire en fait?
C'est juste incroyable, au final on rencontre des gens qu'on connaît pas forcément et voilà.
Vous avez vu l'endroit ou les endroits où vous allez travailler, vous former?
Oui, on a vu certains.
Qu'est-ce qui vous a paru attirant déjà dès le départ?
Le fait que beaucoup de personnes maintenant vont savoir que la première fois que la création de l'Académie de l'Hospitalité en fait est créée, ça soit nous déjà. Et que là, tout le monde pense qu'on va tous réussir et on espère aussi réussir.
Il y a longtemps que vous avez pensé faire ces métiers ou est-ce que d'un seul coup on vous a proposé, vous dites pourquoi pas?
Oui, moi ça a été une journée qu'il y a eu l'atelier l'accueil de l'hospitalité qui était venu. Et en fait, on m'a proposé, j'ai accepté, je me suis inscrite et je me suis dit pourquoi pas tester une nouvelle voie.
Et vous êtes tous de l'agglomération? Vous habitez dans la région?
Oui, moi je suis de Mazingarbe.
Moi je suis de Avion.
Moi, je suis de Lens.
Voilà. Donc, c'est vrai que pour vous, on va dire que c'est une possibilité de formation à proximité de vos lieux de vie. C'est peut-être plus facile que d'aller à Lille ou ailleurs.
Oui, c'est exactement ça.
Voilà, ben je vous souhaite un bon parcours, profitez bien de votre enseignement et puis bien sûr de la vie aussi professionnelle et au-delà. Parce que quand on n'a pas de métier, c'est quand même un peu difficile de vivre.
Oui, c'est difficile.
Voilà, donc bon courage, bonne chance.
Merci beaucoup.
Philippe Duquesnoy, je suis le maire de Arnes. Je suis à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et ils m'ont demandé d'être le président de l'office de tourisme de Lens-Liévin et Nain-Carvin. J'insiste sur Nain-Carvin aussi parce que nous travaillons ensemble. Voilà, ils nous ont rejoints, ils ont rejoint la CAL parce qu'on avait une stratégie de développement touristique qui correspondait aussi à leur territoire.
Quand on parle de Lens-Tourisme par rapport à l'office du tourisme, il y a une nuance ?
Ben, Lens Tourisme, c'est comme ça que, si vous voulez, comme image pour, vous savez, celui qui habite à Marseille, on va plutôt connaître Lens, on ne peut pas dire Lens, Hénin, Carvin, Liévin, voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est Lens Tourisme, néanmoins, nous sommes Lens Tourisme, Hénin, Carvin.
Donc effectivement, il y a des phares dans ce bassin, hein, on va dire.
Ah oui.
Et ici à Lens, bien sûr, il y a le Louvre-Lens, il y a le Racing Club de Lens. Enfin, je veux dire que pour le public extérieur, évidemment, Lens, ça veut dire quelque chose.
Oui, quand on parle de Lens, ils vont savoir ce que c'est dans toute la région, dans toute la France, voire à l'étranger. Vous savez, quand on est aux États-Unis, quand on parle de Lens ou de Liévin, pour eux, c'est la même chose, c'est le même groupe. Voilà, il nous faut un point de repère, on a précisé que c'était Lens, pour les raisons que vous venez de dire d'ailleurs, parce qu'on a des ovnis qui se sont posés aussi sur notre territoire. Vous avez parlé de Louvre-Lens, mais vous parlez du Racing, mais aussi de l'UNESCO, cette reconnaissance à l'UNESCO du territoire.
Voilà, donc un patrimoine, on va dire, industriel qui est mis en valeur aussi. Hein. Et quand il y a les journées du patrimoine, on peut montrer des choses ici. Et puis, il y a aussi l'idée que des gens viennent de plus en plus en tant que touristes ici et qu'il faut les accompagner, les aider à s'installer, à découvrir.
Absolument. Il faut que, quand ils viennent, d'ailleurs, ils trouvent de quoi s'occuper, de faire du tourisme de mémoire, du tourisme culturel, mais il faut qu'ils aient des hôtels à leur disposition, il faut qu'ils aient de quoi aller dans les restaurants, il leur faut savoir les accueillir. Et si on les accueille, vous savez, il me semble qu'au départ, le tourisme, quand il venait, c'était 2 jours, samedi, dimanche. Aujourd'hui, c'est un peu plus loin. On vient le vendredi et puis on repart le lundi parce qu'il y a des choses à faire. Il faut aussi qu'ils aient des choses à leur disposition, qu'on puisse leur communiquer tout ce qui est possible de faire sur notre territoire. C'est ce à quoi on s'emploie aujourd'hui. Et bien les recevoir. On a parlé d'humilité tout à l'heure ensemble. Eh bien oui, ça c'est important, cette humilité.
Alors je vais revenir sur cette notion d'humilité. Dans ce bassin minier, hein. Il y a beaucoup de gens très humbles et qui n'osent pas vraiment prendre la parole, prendre des initiatives, c'est compliqué. Et puis il y a des élus qui font un gros travail, qui n'est pas toujours reconnu, mais qui en même temps s'accaparent aussi cette parole au nom de la représentation. Comment on peut améliorer la relation ?
Cette relation peut déjà s'opérer avec ce qu'on propose aujourd'hui. Cette humilité dont on parlait fait que les gens ont des possibilités. Il faut révéler ces possibilités. C'est ce que l'on va faire dans cette académie de l'hospitalité. Mais c'est vrai aussi que bien souvent, quand on a, on va dire, un ténor de la politique, il a toujours tendance, si vous voulez, à aplatir un peu, à prendre de la distance, à influencer trop les autres. Non, c'est ce qu'on appelle aussi de la participation, de la politique participative. Je crois que dans nos communes du bassin minier, c'est ce qu'on essaye tous de faire. Maintenant, il faut trouver les bonnes personnes qui puissent émerger, leur donner cette chance d'émerger. On le fait à travers des associations. Je veux parler des associations culturelles, les associations sportives, les associations citoyennes. Vous voyez, c'est tout ça. Maintenant, on ne demande que ça, c'est qu'on ait ces possibilités de les accompagner pour qu'ils ressortent, parce que nous, on ne sera pas toujours, en tout cas, vous le savez pour moi, il faut laisser la chance aux autres. Ce n'est pas la chance en réalité, c'est à toutes ces personnes qui ont des capacités et qui doivent pouvoir les exprimer et emmener avec eux d'autres personnes en travaillant avec eux, en les écoutant, en disant bah oui, c'est bien ce que tu dis, mais peut-être que tu peux le voir un peu différemment. Il faut que chacun puisse s'exprimer.
Alors ici, j'ai découvert des valeurs qui sont présentées comme fondamentales, c'est-à-dire l'accueil de celui qu'on accueille pour justement apprendre le métier, etc. L'écoute aussi, la bienveillance. Est-ce que vous, du côté politique, on peut imaginer que ces qualités qu'on développe là, elles pourraient être aussi une façon d'œuvrer maintenant pour amener des jeunes à s'engager, à s'intéresser à la politique et au développement du territoire?
Je partage complètement ce que vous venez de dire, et surtout un mot que vous avez utilisé qui est la bienveillance. Voilà un mot que j'utilise beaucoup quand je prends la parole, cette bienveillance. Savoir donner la parole à l'autre, mais il faut l'écouter aussi. Parce que bien souvent, on donne la parole, mais on n'en a rien à faire de ce qu'il dit. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on devrait pouvoir faire. Et ce qu'on est en train de créer, vous voyez, le fait d'arriver à créer cette académie de l'hospitalité, eh bien, c'est parce qu'on a eu des gens qui sont venus nous le demander. Et puis, on a suivi, les politiques ont suivi. Maintenant, à eux d'appliquer cette même chose dans leur commune. Et pourquoi pas?
Voilà, donc ne désespérons pas, mais il faut y aller, quoi.
Oui, mais c'est à nous à donner cette envie-là. Moi, j'ai essayé de le donner, en tout cas. Vous le savez, hein, je ne me représenterai pas pour un futur mandat municipal. Mais j'ai des gens, j'ai trouvé des gens autour de moi qui méritaient. Et j'ai envie de les aider, j'ai envie que eux-mêmes puissent... avoir des gens derrière eux qui puissent évoluer, qui puissent aussi transmettre. J'ai envie que ce soit beaucoup plus participatif. Pas toujours facile, vous savez. On a créé des conseils de sages, on a créé les conseils municipaux des jeunes. C'est pas toujours facile à vivre, hein, mais il faut le faire. Il faut accepter ces choses-là. Vous êtes un petit peu contredit quelquefois, mais il suffit de s'expliquer en tout cas. Mais quelquefois on s'explique pour ne pas dire on pourra pas, mais on peut aussi s'expliquer en disant ben, c'est pas une mauvaise idée et qu'on va les suivre.
Oui. Donc il y a ce côté-là, puis il y a aussi l'incompréhension, c'est-à-dire des choses qui sont appliquées et puis d'un seul coup les gens se disent qu'est-ce que c'est encore ce truc qui me tombe sur la tête. Donc il y a de la pédagogie en même temps.
La pédagogie, voilà. Ben justement, la pédagogie, ça ne doit pas seulement se faire à notre niveau. Moi, la pédagogie, je l'aime bien. À l'école, les gens devraient les apprendre à réfléchir, à tout ça, et à nous, après, de continuer cette même pédagogie. Je recevais hier les professeurs, enfin les directeurs d'école, des écoles de Herne. Eh bien, c'était le sujet qu'on a traité, on a parlé comment on peut faire avec les enfants, comment on peut les intéresser. Nous, on fait des propositions, les directeurs réfléchissent, ils nous disent ça va fonctionner correctement, les enfants vont adhérer. Vous voyez, on prend conseil aussi auprès d'eux pour faire nos propositions. Et puis, s'il y a des propositions que l'on fait qui disent ça va pas être terrible, on n'y arrivera pas, parce qu'on connaît pas tout, hein, on pense que... Il faut aller demander à l'autre, hein, qui a plus de connaissances que nous, si ça va marcher ou pas. Eh bien, on ne le fait pas, on se retire et on propose autre chose. Nous, ce qu'on appelle les politiques, moi, j'en suis pas réellement un, je le dis toujours, j'ai une formation, non pas politique, plutôt syndicaliste. Mais bon, on est obligé après de faire de la politique. La politique, c'est gérer la commune, c'est gérer la cité. C'est plus difficile lorsqu'on fait de la politique politicienne.
Donc on peut peut-être dire qu'il y a des petits changements de paramètres, des nouveaux paramètres qu'il faut intégrer quand on fait de la politique.
Ah oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Pour ça, il faut être aidé aussi pour pouvoir les intégrer. Parce que, je vous dis, moi je viens d'un monde qui n'est pas un monde politique et il a bien fallu que je gère après une commune le mieux possible. Mais je l'ai fait en bon père de famille, comme ça. Peut-être que j'aurais pu faire mieux si j'avais eu des petits paramètres à côté pour m'y aider. Et s'il fallait que je les accepte aussi.
Bonjour, moi je suis Émilie Debar, je suis la directrice artistique de la compagnie L'Estafette.
Alors L'Estafette, comme son nom l'indique, vous avez de quoi vous produire en extérieur et rouler ?
Eh oui, je parcours les départementales de France et de Navarre avec mon estafette. Je mets du temps, mais j'arrive à bon port et on fait plutôt du théâtre de rue, mais le Nord étant ce qu'il est, on fait des fois des versions, ce qu'on appelle des missales mi-rue.
Voilà, donc une estafette est un projet artistique. Ça fait longtemps que vous avez démarré ce projet ?
Eh bien, pas tant. Ça fait longtemps que je suis, moi, comédienne et que je travaille avec dans le théâtre de rue. Mais l'estafette, c'est un projet qui a commencé en 2022, à la suite d'un don d'une estafette. Et on avait un vieil oncle dans la Drôme provençale, lors du confinement, qui nous a dit « Ah ben, je vous donne l'estafette ». Et quand, ben, qu'est-ce qu'on allait en faire ? On allait en faire notre leitmotiv de compagnie, voilà.
Donc bien sûr, l'estafette est aménagée pour pouvoir vous produire avec combien de personnes en général pour vos spectacles ?
On a des spectacles où on est deux sur scène, trois, six, ça dépend les spectacles. Mais là, pour l'instant, on a trois spectacles où on travaille le très jeune public avec longue jupe et culotte courte. Un autre spectacle de rue qui s'appelle Les Dégainés, où on travaille ces deux ouvrières des années 70 qui viennent parler d'une coopérative ouvrière et féministe à la mode de Lippe. C'est comme une mythologie ouvrière sur des tentatives de coopératives ouvrières et féminines. Ça, c'est Les Dégainés. Et le partenariat dans lequel on est avec l'Office du tourisme de Lens-Liévin notamment, s'appelle Les Bancales. Et c'est un travail sur le territoire où on mêle notre gourmandise, où on fait une soupe et du pain avec les spectateurs pendant le spectacle.
Donc ce nom bancal, il y a un symbole derrière ?
C'est un banquet un peu bancal. On y questionne les injonctions à la convivialité. Il faut refaire du lien, il faut être convivial, mais comment ? Et peut-être que ce n'est pas dans la propagande, dans la recherche de la convivialité qu'on va être le plus convivial, mais c'est peut-être dans chacun de nous, nos petites bancalités, nos petites failles, qu'on va peut-être se retrouver une nouvelle forme de convivialité.
Alors dans cette région, Hauts-de-France, mais dans le territoire minier, ex-minier, hein, il y a eu beaucoup de banquets, il y a quand même beaucoup de petites sociétés qui regroupent des gens, etc. Pour autant, ce n'est pas forcément avec ces banquets que les gens s'ouvrent vers l'extérieur. Ça a même plutôt tendance en ce moment à se réduire vers des enjeux, des horizons politiques qui enferment les gens sur eux-mêmes ou sur des idéologies qui ne sont pas forcément ouvertes vers l'extérieur. Donc comment, à partir du banquet, on peut voir autrement les choses pour créer du lien social, mais qui offre des perspectives et des ouvertures ?
Ben c'est tout à fait le thème du spectacle. Du coup, c'est aussi plus vaste, plus globalement pour nous. Pourquoi on travaille en rue ? C'est qu'on a envie de réinvestir aussi l'espace public et de réinvestir, par exemple, une place et d'ouvrir à tout le monde l'espace du banquet et de re-questionner. Le banquet n'est pas qu'un lieu familial, ni un lieu de gens confédérés en soi. Voilà, du coup, c'est tout à fait le thème même du spectacle.
Est-ce que le spectateur a un rôle dans votre spectacle ? Est-ce que vous le prenez à partie ? Vous l'énervez un peu ? Vous le rendez complice par moment ?
Il est tout à fait partie prenante. Déjà, on accueille le public avec un légume qu'il devra découper pendant le spectacle. On prend dans le public des personnes, des spectateurs et des spectatrices, et avec qui on fait une danse des majorettes. On entame une danse des majorettes au poireau, voilà. Et puis, on travaille aussi avec des spectateurs complices en amont du spectacle, où eux aussi nous racontent une part de leur intimité. Il y a tout un moment où il y a un podcast autour de qu'est-ce que les repas partagés, au-delà des repas familiaux, quels souvenirs on a chacun de nous de repas partagés, de construction de repas ensemble, voilà. Et ils viennent aussi danser avec nous à la fin du spectacle.
En termes de lieu de diffusion, vous avez, bon, là vous venez de parler de Lens, est-ce qu'il y a des maisons qui vous accueillent, centres sociaux, etc., ou des terrains de plein air où il y a des festivités, 14 juillet ou autre ?
Eh bien, on joue surtout avec des centres culturels qui nous appellent, ou par exemple des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Voilà, on est programmé sur des territoires. Par exemple, là, c'est une des prochaines dates sur la région. C'est à Ostricourt, où on a un travail avec des centres sociaux d'Ostricourt et la population d'Ostricourt, mais aussi lié à la communauté de communes de Templeuve. Et sinon, cet été, on a été à Chalon-dans-la-Rue, où en collectif, on a fondé qu'on appelle une cour avec plusieurs partenaires des compagnies des Hauts-de-France, mais de France aussi, qui s'appelait la collective Les Punaises, qui était un lieu où étaient diffusés des spectacles portés par des femmes et des minorités de genre. Voilà.
Chalon dans la rue, ça reste un moment dans l'année incontournable en tant que festival ou en termes de dynamique pour le théâtre de rue ?
Ça reste un moment incontournable, bien que on sent qu'on arrive à la fin d'un système, me semble-t-il. En termes de diffusion, c'est toujours de plus en plus difficile de trouver des programmateurs. Et ça demande un tel investissement pour chaque compagnie. C'est comme Avignon, quoi. C'est un peu le gros marché, à la fois incontournable, mais dont l'économie est un peu à bout de souffle, je trouve.
Et donc, pour votre compagnie, j'imagine que vous appuyez peut-être sur des ressources d'autres compagnies que vous mettez en commun pour développer votre diffusion, par exemple.
Ben oui, il y a une entraide, c'est pour ça aussi qu'on forme une cour et une collective, c'est qu'il y a des entraides entre compagnies, mais s'entraider souvent entre petites compagnies, on reste malgré tout dans un vase clos, quoi.
Et donc pour vous connaître, vous avez un site web ou quelque chose comme ça ?
On a un site web qui s'appelle Compagnie l'Estafette, comme une estafette. Et on a aussi un compte Instagram et Facebook. Vous tapez Compagnie Estafette et vous nous trouvez.
Voilà, bien merci et bienvenue en région Hauts-de-France.
Ben, merci à vous.
Je suis proposé une